Bonjour, soyez la bienvenue. Le message qui va suivre vous est proposé par la Mission mondiale d'évangélisation Jésus-Christ et la réponse. Ce message a été enregistré à la chapelle des Moissonneurs, annexe de la chapelle Rehoboth, église principale de la mission JCR. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez équipés pour relever vos défis et encouragés à travailler à la réalisation de votre destinée. Sans plus tarder, nous vous laissons à l'écoute de la révérende M. Kelly Patricia. La révérende M. Piebi Patricia.
Bien qu'étant dans la foi, bien qu'étant chrétien, on se demande pourquoi les choses n'évoluent pas pour moi. Pourquoi apparemment, avec tout ce que j'ai à ma disposition, j'ai l'impression de toujours être confronté au malheur. J'ai l'impression d'être toujours confronté à l'épreuve. J'ai l'impression que les choses semblent ne pas évoluer. Est-ce que Dieu est toujours présent dans ma vie? Est-ce que Dieu ne l'est pas? Là est une question. Nous sommes souvent laissés perdre notre marche dans la foi à cause de ce que le diable nous a fait croire. À cause de ce que le diable aussi essaye de nous faire croire. À cause de notre façon de penser, notre façon de réfléchir, à cause de beaucoup d'éléments. Je sais que vous avez appris beaucoup de choses concernant l'adversité, mais je voudrais m'apesantir sur certains éléments, peut-être qui vous ont échappé ou que certains découvriront ce soir. On parle de l'adversité. Je vais de temps en temps utiliser cette expression adversité, comme je vais de temps en temps utiliser l'expression épreuve. Parce que lorsqu'on parle de l'adversité, on parle aussi de l'épreuve. Et quand on parle d'épreuve, on parle de souffrance, on parle de malheur, on parle de malédiction, on parle de blocage. Donc il faudrait bien que nous pésions les mots que nous utilisons. Lorsqu'on parle d'adversité, sachez qu'on parlera de l'épreuve. Sachez qu'on parlera de la souffrance, on parlera même de la douleur, parce que la souffrance engendre la douleur. On parlera du malheur ou ce qu'on appelle en général les blocages. Mais je ne commencerai pas gaiement mon message, parce que peut-être que certains seront choqués et diront, mais on a besoin d'être motivés, vous serez motivés. Mais j'aimerais vous dire que l'adversité, vous ne pourrez jamais vous en détacher. Ah ben, ce serait mentir que de dire « Vous allez vaincre, tout sera parfait. » Non. C'est vrai que la perfection relève de Dieu. C'est vrai que la perfection relève du royaume de Dieu et de la vie du chrétien. Mais quant à l'adversité, ne vous leurrez pas. Vous serez toujours confronté à de l'adversité. Mais la différence, et ce qui fera notre force, c'est quelle est l'attitude que nous aurons vis-à-vis de cette adversité et comment allons-nous dominer. Généralement, lorsqu'on parle de l'adversité ou de l'épreuve, ou si vous voulez savoir à quel moment on peut parler d'adversité, c'est généralement quand on est prêt d'un changement. Lorsqu'on est prêt d'une transformation. Lorsqu'on est en train de prendre une décision importante concernant notre vie, notre travail, notre famille. C'est lorsque généralement on essaie de réaliser quelque chose dans notre vie. C'est à ce moment précis que vous serez confronté à ce que nous appelons l'épreuve ou à ce que nous appelons l'opposition ou encore à ce que nous appelons l'adversité. Mais je le répète, on aura toujours de l'adversité dans notre vie. Parce que l'adversité est une école qui nous amène vers notre développement. L'adversité est une école qui nous permet de découvrir qui nous sommes. L'adversité est une école qui nous permet de découvrir quelles sont réellement nos priorités. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que peu importe l'épreuve, peu importe l'opposition, peu importe la difficulté à laquelle vous êtes confronté, rappelez-vous d'une chose, c'est que les Écritures disent « Résistez au diable ». Il fuira loin de vous. Si nous ne résistons pas au diable, le diable ne pourra pas fuir loin de nous. Et nous comprenons en fait, en lisant ce passage, que ce ne sont pas les noms de Jésus qui font fuir le diable. Que ce ne sont pas nos jeûnes qui amènent le diable à fuir, mais c'est notre capacité à résister à l'opposition qui est face à nous. C'est lorsque nous prendrons la décision de nous opposer à l'ennemi jusqu'au bout qu'il fuira loin de nous. Ce n'est pas que certains ne sont pas en prêt à des attaques diaboliques, mais c'est simplement parce qu'ils ont compris qu'il faut qu'ils prennent position pour que les choses changent. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous prendrez une décision, chaque fois que vous allez décider de changer votre environnement, de changer votre vie, le diable se pointera toujours avec une épreuve pour savoir jusqu'où vous irez. Quelle est en fait votre véritable détermination? Donc en fait, ne prenez pas l'épreuve comme quelque chose de mauvais. Ne prenez pas l'adversité comme quelque chose de triste. Mais prenez l'adversité comme un moyen que Dieu utilise pour vous permettre de considérer, je dis bien, de considérer votre détermination. Vous savez, le changement, en fait, ne consiste pas à prendre une décision. Ce n'est pas parce que nous allons dire « je décide de changer » que les choses vont changer. C'est plutôt lorsque vous allez découvrir. Lorsque vous allez découvrir, lorsque vous allez prendre position, lorsque vous allez considérer que votre vie en ce moment n'est pas la bonne vie, c'est à ce moment que la transformation va commencer. C'est à ce moment qu'il y a un changement qui va débuter. C'est à ce moment que les choses vont être difficiles peut-être, mais si notre détermination est à son plus haut niveau, alors nous réussirons. Et nous pourrons dire, nous nous réjouissons de ce que Dieu nous a rendu plus que vainqueurs dans tout ce que nous avons vécu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, l'une des choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, c'est que lorsqu'on parle d'épreuves, lorsqu'on parle d'adversité, il faut que vous compreniez qu'elle se situe à deux niveaux. Et la plus difficile, et c'est celle à laquelle nous sommes la plupart des temps confrontés en tant que chrétiens, c'est cette adversité qui vient de nous-mêmes. Souvent, nous pensons, et nous allons bien le découvrir dans l'épître de Jacques, nous pensons souvent que nos difficultés sont dues aux autres. Nous pensons souvent que nos difficultés sont dues aux circonstances. Mais je vais vous apprendre quelque chose ce soir, c'est que les circonstances ou les humains qui viennent souvent face à vous ne sont que la conséquence du résultat du travail que vous avez fait à l'intérieur de votre vie. Si votre vie n'a pas été renouvelée avec Dieu, si votre vie n'a pas changé à l'intérieur, s'il n'y a pas eu de transformation ou encore de conversion réelle, c'est-à-dire métanoïa, changement de mentalité, changement de position, vous pouvez prier, vous pourrez jeûner, vous pourrez aller dans toutes les cliniques spirituelles que vous voulez, vous pourrez avoir toutes les impositions de mains du monde entier, de tous les serviteurs de Dieu, rien ne changera dans votre vie. Et pour ça, j'aimerais que nous lisions un passage qui se trouve dans l'épître de Jacques. Et quand je méditais dessus, j'étais émerveillée. Je disais, Seigneur, il n'y a que toi. Le passage, c'est Jacques 1, versets 12 à 18. La Bible dit, « Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie, promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise, « C'est Dieu qui me met à l'épreuve. » Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun de nous est mis à l'épreuve par son propre désir. Lorsqu'il a conçu, met au monde un péché qui, parvenu à son terme, fait naître l'amour. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par la parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Mais le passage le plus important pour moi commence à partir du verset 14, où Dieu dit que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal. C'est-à-dire, Dieu ne peut être tenté par le mal et par conséquent vous amener à être tenté par le mal. Mais il dit une chose souvent qui nous passe devant les yeux, que nous ne réalisons pas. Il dit, mais chacun de nous est mis à l'épreuve par son propre désir. Je m'arrête là. Ou encore, je peux continuer. C'est ce désir qui peut être divin, comme qui peut être mauvais, qui va nous mettre à l'épreuve, qui va développer chez nous l'adversité, le malheur, le blocage, le fait de ne pas réussir. Parce que ce désir, bien que divin, et nous allons le remarquer, peut être pour nous une occasion de chute. Et ce désir, bien que païen, sera aussi, peut être aussi pour nous une occasion de chute. C'est ce péché amorcé qui nous conduira vers notre mort. Ici, je ne parle pas de la mort spirituelle. Ici, je vais faire allusion à l'adversité, à ce que nous appelons aujourd'hui la tribulation. Trop souvent, nous disons que nous avons été éprouvés, nous avons vécu des tribulations. En fait, souvent, qui ne sont pas des véritables tribulations, qui sont des problèmes qui nous sont propres, mais que nous n'avons pas su discerner. Ou encore que nous n'avons pas encore compris. Je voulais alors ce passage parce que je sais qu'il est riche et il va nous expliquer quelque chose d'important sur l'épreuve, sur ce qu'on appelle la tribulation, sur ce qu'on appelle l'opposition. Pour mieux vaincre l'adversité, tout à l'heure je vous disais qu'il y a deux niveaux. Il y a l'adversité intérieure et il y a l'adversité extérieure. Et je disais en fait que l'extérieur n'est rien d'autre que la conséquence de ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est le mot « désir ». Comment un désir peut nous être fatal? C'est là où se trouve le problème de l'adversité. Comment notre désir peut nous être fatal? Alors, nous allons comprendre certaines choses. Il est important, si nous voulons réussir, il est important, si nous voulons avoir du succès dans notre marche avec Dieu, que nous fassions la différence entre l'objectif de Dieu pour notre vie et nos désirs personnels, qui peuvent être divins. Trop souvent, nous confondons l'objectif de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire le plan qu'il a pour nous, la destinée qu'il a pour nous, à nos propres désirs. Et c'est là où viennent, où commencent nos difficultés. Lorsqu'on parle de destin, il n'y a que seul Dieu qui est maître du destin. Donc quand Dieu dit que je fais telle ou telle personne, que je fasse Patricia, que je fasse, je ne sais pas, Monsieur Affambourg, que je fasse Patricia qui est là à côté, il sait ce qu'il a conçu. Il sait jusqu'où il va aller, il sait le potentiel qui est le nôtre, il sait jusqu'où il nous conduira, il sait quelles sont nos faiblesses, il a déjà déterminé tout cela parce qu'il est notre créateur, mais peu lui importe, il est Dieu, il est celui qui nous a conçus, et lui seul est capable de nous conduire dans la destinée qui est la nôtre. Donc concernant la destinée, concernant le destin, concernant l'objectif de Dieu dans notre vie, Dieu n'a pas besoin de nous. Il est maître de notre vie et de notre destinée. Le seul moment où il aura besoin de nous, c'est que nous soyons à même d'accepter le plan de Dieu. Ce qui crée l'adversité, c'est là. Nous n'acceptons pas le plan de Dieu dans notre vie et nous développons des désirs qui ne sont pas divins ou qui peuvent être divins. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons Dieu en nous et nous aspirons à ce qui est beau, à ce qui est excellent. Nous aspirons à tout ce qui est extraordinaire, ce qui est puissant. Mais ce désir, bien que divin, parce que la puissance vient de Dieu et qui est normal parce que nous avons pour origine Dieu, peut être notre obstacle. Nous voulons réussir, faisons la différence entre l'objectif de Dieu pour nous. N'aidons pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. La seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous acceptions son plan pour nous. C'est tout. Mais quant au reste, c'est Dieu. Depuis que vous existez, vous ne contrôlez pas votre destin. Je suivais un documentaire à la télévision, sur les chaînes câblées, et on a montré dans un documentaire un petit garçon de 4 ans qui vous tape 60 km. 4 ans, 60 km. Aujourd'hui, on peut dire, et c'est un Indien, son père adoptif, papa adoptif, parce qu'en fait, il a été vendu par sa mère à cause de la précarité. Il s'est retrouvé chez un marchand qui l'a revendu encore à quelqu'un d'autre à cause de la précarité. Et ce monsieur, en punissant cet enfant, lui a dit de courir autour de la maison. Et il est sorti, oubliant de dire à l'enfant, il faut que tu t'arrêtes. Il est sorti, il a fait 5 heures dehors, il est revenu, l'enfant courait toujours. Alors il découvre que dans cet enfant, il y a une capacité. Il a la capacité de courir, il peut gagner des marathons. Mais la mère, quand elle a vendu, elle ne savait pas ça. Pourquoi? Parce que notre destin est voilé même au sein qui nous porte. Certains parmi vous ont peut-être été vendus, se sont retrouvés dans des situations où ils se posaient la question de savoir, pourrais-je être un jour heureux ou heureuse? Pourrais-je m'en sortir? Vous êtes retrouvés dans des situations de maladie incroyables où vous demandiez, est-ce que je vais sortir de l'hôpital un jour? Au-delà des médicaments, au-delà des docteurs, Dieu avait décidé que vous viviez et vous vivez encore aujourd'hui. Vous pouvez vous retrouver dans des accidents tout autour de vous. Toutes les personnes qui sont autour de vous sont mortes. Vous êtes le seul survivant. Ou la seule survivante. Vous dites peut-être, oh non, c'est à cause de mon gris-gris. Ce n'est pas à cause de votre gris-gris. C'est parce que Dieu n'avait pas encore déterminé que ce jour était le jour de votre mort. Dieu tient votre destin entre ses mains. Si vous avez réussi à l'école, Dieu tient votre destin entre ses mains. C'est lui. Parce qu'il en a décidé ainsi. Mais n'essayons pas d'aider Dieu. Dieu ne nous demande rien. Mais nous sommes choqués de savoir que Dieu ne nous demande rien. Il nous demande simplement d'accepter. Je bénis le Seigneur pour le séminaire de la semaine prochaine où on parle du défi de la foi. Et si Dieu le permet, je vous parlerai de l'origine de la foi. Et je vous expliquerai ce qu'est la foi. Mais pour l'instant, j'aimerais que nous saisissions qu'il y a une différence entre le destin qui ne relève que de l'autorité suprême de Dieu et de notre quotidien. En fait, là maintenant, qui relève de nous. Pour éviter l'adversité, pour éviter l'opposition, faites la différence à partir d'aujourd'hui entre le destin, l'objectif de Dieu pour vous et vos désirs personnels, quoique divins. Par moment. Je vais vous donner une petite idée de ce qu'est un objectif. Tout à l'heure, je vous donnais quelques exemples et je disais, en fait, l'objectif de Dieu, c'est le plan, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a tracé pour votre vie. Et il ne dépend uniquement que de vous. À la différence du désir qui relève de vous et que vous devez utiliser pour votre quotidien, en fait, c'est aussi un but, c'est un objectif que Dieu vous donne. C'est-à-dire quand on dit, chaque jour, lavez-vous par la parole, chaque jour, renouvelez votre intelligence par la parole, chaque jour, veillez à ne pas mentir, tenez-vous dans la sanctification. Cela relève d'un désir que Dieu met dans notre cœur à pouvoir lui plaire. C'est un désir divin, c'est-à-dire je vais plaire à Dieu. Et à ce moment-là, cela relève de nous, c'est-à-dire c'est nous qui allons devoir jouer pour que les choses aillent en notre faveur. Alors il faut comprendre que les désirs sont souvent confrontés à certaines réalités. La participation des hommes, la participation de certaines circonstances, plus ou moins bonnes, est-ce que vous comprenez? Mais dans le désir, on n'a pas la capacité de maîtriser ces événements. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'adversité à ce niveau donné, On ne dit pas nous allons vaincre l'adversité, mais on dit nous allons gérer l'adversité. C'est-à-dire, nous allons gérer notre attitude face aux circonstances négatives et nous allons gérer notre attitude face aux hommes qui deviennent par moments des obstacles dans notre développement spirituel. Vous savez, Dieu est grand et il nous aime, c'est quelqu'un de très puissant. Maintenant, je voudrais vous faire comprendre une réalité souvent que nous n'acceptons pas, mais que nous allons devoir accepter aujourd'hui. Lorsque nous lisons les Écritures dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que quelque part, nous avons les gènes, nous avons tout ce qui vient de Dieu. Nous avons pour origine Dieu. Nous le ressemblons dans le caractère, nous le ressemblons dans sa façon de faire. C'est pourquoi nous avons tendance à toujours apprécier tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de puissant. C'est un sentiment noble et qui est normal parce qu'en fait, Dieu est pour nous un Père. Mais pour mieux comprendre l'adversité intérieure, ce problème-là que nous avons, qui nous amène à tout le temps lutter, à penser que ce sont les parents au village qui nous font mal, ou à penser que c'est toujours Satan qui met des tribulations, qui nous met des bâtons dans les roues, à toujours penser que ce sont les autres qui sont la source de notre problème, nous allons le découvrir. Ce ne sont pas les autres qui sont la source de notre problème. C'est le fait que nous refusons d'accepter ce que Dieu a fait pour nous sur la croix. Certains seront choqués, mais c'est la vérité. Nous refusons d'accepter ce que Dieu a fait pour nous sur la croix. Notre adversité intérieure relève surtout de notre refus d'accepter ce que Dieu nous demande d'accepter. Ce n'est pas compliqué. C'est là où tout tourne. Tout tourne. Et vous allez voir certains chrétiens bien connus de nouveau vont toujours avoir des attitudes d'esclaves. Ils vont passer leur temps à des nuits à faire des combats spirituels, des combats spirituels qui sont indéfinis, qui ne terminent jamais. Entre-temps, ils oublient que Christ est mort sur la croix et on dit qu'il a tout payé, il a tout cloué sur la croix. Et les malédictions et tout ce qui nous embête, tout a été cloué il y a 2000 ans sur la croix. Nous oublions, malgré le fait que nous soyons chrétiens, que nous avons le nom de Jésus qui nous permet de pouvoir braver l'ennemi. Et la Bible nous dit en fait que tout nous a été donné. Nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les scorpions. Et la Bible précise à la suite, rien ne pourra nous nuire. Dieu, quand il nous a conçus, il a fait de nous des personnes valeureuses. Nous avons de la valeur. Dieu nous a donné une telle valeur à tel point, et cette valeur se ressent au point où l'ennemi est contre nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne le pouvoir sur tout ce qu'il a créé. Dieu fait de nous le battement de son cœur. Dieu fait de nous son principal collaborateur. Et Dieu, dans son amour infini, fait en sorte que dans cette situation de roi, de royauté, dans cette situation de domination, il met tout à notre pouvoir, il met tout à notre portée pour que nous soyons sécurisés tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue spirituel. Et nous nous sentons à l'aise. Nous nous sentons à l'aise. Et c'est ce qu'Adam ressentait dans le jardin d'Éden. Il n'y avait rien qui pouvait lui annoncer qu'il y avait un danger quelconque. Il ne s'inquiétait même pas. Danger ne faisait pas partie de son vocabulaire. Parce qu'il savait que dans le jardin d'Éden, il n'y avait qu'une seule présence. C'était celle de Dieu. Et que rien ne pouvait aller en encontre de la présence de Dieu. Il se sentait en sécurité. Il n'avait pas besoin de pleurer pour manger. Il suffisait qu'il tende les bras et il cueillait un fruit. Cet amour pour Dieu l'a encore poussé à nous amener à réaliser qu'il n'y a qu'en lui seul que nous pouvons évoluer. C'est pourquoi il est exprimé dans le livre de Jean que si nous ne sommes pas attachés au cep, nous ne pouvons porter du fruit. Nous ne pouvons être rentables. Nous ne pouvons faire plaisir à Dieu. Tout ça, Dieu nous l'a donné au commencement. Mais évidemment, comme on connaît tous l'histoire, Adam a péché avec Ève. Et les choses ont tourné pour le mal. Les choses ont très mal tourné. Alors a commencé à naître dans le cœur et dans l'esprit des hommes beaucoup de choses qui n'existaient pas au commencement. Alors nous avons commencé à perdre l'image que nous avions de nous-mêmes. Aujourd'hui, depuis la chute, les hommes aujourd'hui ont une mauvaise image d'eux. Les hommes aujourd'hui ont une mauvaise estime de leur personne. Si vous dites à quelqu'un, tu as de la valeur, elle dit, ah, quelle valeur? Prenons un exemple assez typique qui est dans les Écritures, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon appartenait au peuple juif. Les juifs voyaient Dieu quand ils le voulaient. Mais quand Dieu vient se pointer devant Gédéon et qu'il lui dise, vaillant héros, Gédéon dit à Dieu, tu te trompes. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça part? Gédéon dit à Dieu, tu te trompes. Je ne sais pas si vous réalisez. Gédéon dit, parce qu'en fait, vous dites peut-être que ce n'est pas Dieu, mais l'envoyé de Dieu, c'est l'autorité déléguée. Alors il peut se permettre de dire à l'autorité déléguée, c'est faux. Je ne peux pas être un vaillant héros. Et c'est à Dieu maintenant d'insister, de supplier Gédéon, de la mener à comprendre qu'il est un vaillant héros. Non pas parce qu'il a de la force, mais parce que Dieu est en lui. Notre chute nous a éloignés de Dieu. Notre chute a fait en sorte que le rôle pour lequel nous existions, le fait de dominer, le fait de gérer la terre, de gérer l'espace qui nous a été donné, nous ne l'avons plus. Notre chute nous a amené à ne plus estimer la valeur que nous sommes. Aujourd'hui, on peut passer, on peut se prendre comme n'importe qui. Les Ivoiriens disent comme des Saphériens. Comme des moins que rien, comme des laissés pour compte. Mais si vous pouvez imaginer la façon dont le cœur de Dieu est brisé à voir ce type de sentiment qui s'élève dans la vie de ses enfants. Vous comprendrez pourquoi il verse des larmes et pour qui il la verse. Il a envoyé son fils mourir sur la croix. Ce péché nous a mené à craindre. Tout à l'heure, je parlais de sécurité. On a peur aujourd'hui. On ne peut rien faire sans avoir la pensée de l'échec. Ce qui n'était pas avant. Aujourd'hui, il y a de la colère. Pourquoi de la colère? Parce que nous avons l'impression d'être des incapables. Alors, il suffit de dire à quelqu'un, ah ben dis donc, tu ne vaux rien. Et vous le voyez dans toute sa colère. C'était un sentiment, c'était une émotion qui n'existait pas au commencement. Alors aujourd'hui, on a la déprime. Parce qu'on a fait quelque chose et que les choses n'évoluent pas comme on l'entend. Allez, c'est fini, on s'affale. Plus rien ne va plus pour nous. Pour certains, on va laver le corps. Pour d'autres, on fait des jeûnes. On fait à la limite des incantations pour essayer de trouver une solution à notre problème. Certains vont encore manifester la honte et la culpabilité. On a honte de ne pas être ou de ne plus être en communion avec Dieu. Mais on cache cette honte sous divers éléments. On se sent coupable parce qu'on sait d'où on vient. On se sent coupable des actes que nous posons. Vous savez, Dieu a mis au-dedans de nous, même pour ceux qui n'ont pas écouté l'évangile, le principe de la conscience. Qui présente en fait la volonté de Dieu. Et notre conscience nous dit, là tu fais mal. On se sent honteux. On se sent coupable. On se sent malheureux. On est tout le temps dans la colère. On est très triste parce qu'on a l'impression que Dieu n'existe plus. Et à ce moment donné, si quelqu'un vient vers vous, vous dites, ah, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'entend pas mes prières. Mais ce que vous devriez comprendre, c'est que Dieu, à ce niveau, il ne peut rien. C'est un sentiment qui est né dû à la séparation qu'il y a eu entre Dieu et vous. Et ce sentiment continue à perdurer tant que nous n'acceptons pas le fait que lorsque Christ est mort sur la croix, toutes ces choses ont été enrayées. Qu'est-ce qui se passe dans les petits coins des chambres? Il y a des gens que vous voyez en train de pleurer abondamment. Parce qu'au-delà de leur apparence, au-delà de cette apparence de puissance, se cache quelqu'un qui se sent malheureux. Pourquoi? Parce que les aspirations profondes de son cœur n'ont toujours pas été comblées. Tout ceci est né par le péché. Mais lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit que lorsque Christ meurt, il se fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Quand Christ meurt, il nous ramène à notre statut d'enfant. La Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, en fait, nous devenons cohéritiers avec Christ. Nous participons à la nature divine. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous disons « Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie », à ce moment précis, nous réoccupons la place que nous avions au début dans le cœur de Dieu. Et tous les attributs, tous les pouvoirs qui nous étaient conférés reviennent entre nos mains. Mais le problème de notre adversité, c'est que non seulement nous ne le réalisons pas, mais nous le refusons. Notre souffrance, c'est nous-mêmes. Notre souffrance, c'est nous-mêmes. Tu es en colère parce que tes enfants n'arrivent pas à être de bons élèves à l'école. Tu te mets en colère et après, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient te dire, ah, mais vraiment tes enfants essayent d'aller voir, c'est peut-être le grand-père, c'est l'oncle, c'est l'arrière-grand-père, ou va laver le corps, ou va dans une clinique spirituelle. Apparemment, les choses ne semblent pas marcher. Mais les choses ne marcheront pas parce que tu n'as pas pris encore conscience que le pouvoir divin est en toi et que tu peux changer les temps et les circonstances. Que ce ne sont pas les circonstances qui doivent dicter ta vie, mais c'est toi qui dois donner un ton aux circonstances. Peu importe si mes enfants ne sont pas intelligents, peu importe s'ils ne sont pas premiers comme les enfants de ma cousine ou de ma nièce ou de ma sœur. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que votre enfant va à l'école et la raison pour laquelle je dois me mettre à genoux, c'est qu'il se maintienne à l'école. Tous les destins ne se réalisent pas parce qu'on est élément numéro un ou parce qu'on est le meilleur à l'école, mais parce que Dieu a décidé de notre destin. La puissance que nous avons réside dans la prière, dans le fait de réaliser que j'ai tout pouvoir. La Bible dit en fait, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc peu importe le niveau intellectuel, le plus important c'est qu'il se maintienne dans ce niveau intellectuel. Et avec la sagesse de Dieu, et avec la connaissance de Dieu que vous acquérez concernant le destin de vos enfants, vous saurez quelle attitude adopter. Vous saurez qu'est-ce qu'il faut enseigner à vos enfants pour qu'ils soient les meilleurs. Pas meilleur par rapport aux autres, mais meilleur par rapport à ce que Dieu a décidé qu'il soit. La majorité de nos combats sont en fait généralement liés au fait que nous voulons faire comme les autres. Parce qu'il a réussi dans les études, ça veut dire que tout le monde réussira dans les études. Non. Ne pleurez pas. Allez dans la présence de Dieu et demandez-lui, Seigneur, quel est mon destin? C'est là où commencera votre réussite. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, en fait, votre réussite ne dépend pas de la décision de votre décision à réussir, mais votre réussite dépend en fait de la découverte de votre appel, de la raison pour laquelle vous existez. quand vous découvrez la raison pour laquelle vous existez, alors vous allez commencer à voir les choses d'une autre manière. Vous n'allez plus envier la personne qui est à côté de vous. Vous allez commencer à rechercher la volonté de Dieu pour vous. Et alors les hommes qui sont en fait cette adversité extérieure ne seront même plus en fait pour vous des adversaires. Vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui vont vous aider à devenir meilleurs. Réglez votre problème intérieur qui consiste à accepter le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour nous. Ce n'est pas compliqué. Généralement, tout ce que nous versons à l'extérieur n'est rien d'autre que nos projections de douleur. On accuse toujours le père. On accuse toujours la mère. On accuse toujours l'oncle. En tout cas, ça, c'est notre spécialité en Afrique. Le malheur ne vient jamais seul. Qui vous l'a dit? Le malheur vient du fait que nous refusons ce que Christ a fait sur la croix. Le malheur vient du fait que nous ne savons pas pourquoi nous existons. Prenez l'exemple d'un couple. Tout le monde se marie aujourd'hui. Et quand on demande à quelqu'un, pourquoi tu te maries? Je me marie parce que je veux avoir une femme, je veux avoir des enfants. Et quelqu'un te dira, je me marie parce que je veux avoir un homme qui m'aide et tout. Parce que c'est, en général, quand on a un mari qui travaille, ça nous aide quant à notre statut social. Il y a plein de mariages aujourd'hui qui se détruisent parce qu'aucun... La majorité de ces couples ne sont pas capables de vous dire quelle est la destinée de leur couple. Alors, comme il faut se marier parce qu'il faut avoir des enfants et tout, si notre femme n'a pas d'enfants, on se dit, on a échoué notre mariage. Non. Dieu sait pourquoi il n'y a pas d'enfants chez vous. Dieu sait. Par rapport à ce qu'il a l'intention de faire avec vous, Dieu sait. Mais comme la nature africaine, la culture africaine dit, il faut avoir des enfants. Alors, nous, les femmes, nous commençons à nous morfondre. Et nous disons, Seigneur, nous ne sommes pas une bonne femme parce que nous ne donnons pas d'enfants. Mais nous oublions que même derrière ces enfants qui nous sont donnés, il y a une destinée à réaliser. Certains se disent, Seigneur, mais l'argent que j'ai n'est pas suffisant et tout. Pensez que Dieu est assez bête de vous donner l'argent qu'il vous a donné et sachant que cet argent peut répondre à vos besoins. Mais comme votre vie est fonction des autres, nous sommes tous devenus des photocopies des uns et des autres. Alors on ne peut pas apprécier la bonté de Dieu au travers des revenus qu'il nous donne. Alors on commence à s'endetter. On commence à essayer de vivre un standing de vie qui n'est pas le nôtre. Vous pensez que Dieu ne sait pas quel est votre besoin? Vous pensez que Dieu ne veut pas vous conduire dans la prospérité? La Bible est claire dans Jérémie 29, 11. Dieu a pour nous des projets de paix. Quand on parle de projets de paix, c'est que Dieu va faire des projets, il va mettre des choses dans notre vie qui nous permettront de demeurer dans la paix. Et la paix que nous recherchons, c'est la paix sociale, c'est la paix financière. Dieu n'est pas bête. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Mais derrière ce qu'il nous donne, derrière cette espèce d'épreuve, Dieu développe un caractère qui soit prêt à recevoir la bénédiction la plus grosse qui arrive bientôt. Mais nous ne le comprenons pas parce que nous sommes des photocopies des uns et des autres. Et à ce moment, on dit, le diable est contre moi. À ce moment, on dit, il y a une malédiction, je suis bloqué. Vous n'êtes pas bloqué, c'est que vous n'avez rien compris de tous les événements qui se passent dans votre vie. Vous ne les acceptez pas et vous ne pourrez jamais goûter à la bonté de Dieu. Nos blocages ne viennent pas de loin. Nos blocages viennent de nous-mêmes. L'opposition, c'est nous-mêmes. On ne peut pas nier l'opposition extérieure. C'est vrai. Vous irez au boulot, vous n'avez rien fait, quelqu'un va vous en vouloir. Vous avez dit, mais vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait à cette personne. Et vous allez commencer à réfléchir. Ne réfléchissez pas. Si vous avez eu le temps de prier, Dieu vous aurait dit que c'est les qualités que j'ai mises en vous qui font en sorte que la personne qui est à côté de vous vous jalouse. En fait, c'est une personne qui aspire aux dons et aux qualités que vous avez. La jalousie est une expression, en fait, de notre adversité. On est jaloux, pourquoi? Parce qu'on admire quelque chose que l'on voudrait avoir des autres. Mais si on prenait le temps d'aller dans la présence de Dieu et d'apprécier les dons et les talents que Dieu nous a mis entre nos mains, nous ne serons plus jaloux. La jalousie est l'un des signes qui prouve que nous n'avons encore rien compris concernant notre destin. Si vous êtes excessivement jaloux, interrogez-vous. Vous ne connaissez pas encore le destin de Dieu dans votre vie. Parce que quand vous savez qui vous êtes, le potentiel qui est le vôtre, alors vous devenez orgueilleux en Christ. Quand je parle d'orgueil, je ne parle pas du véritable orgueil. Alors vous relevez la tête, vous marchez et vous savez pourquoi vous marchez. Vous ne vous inquiétez pas. Les gens peuvent dire, mon Dieu, il est orgueilleux, mais mon Dieu, elle est orgueilleuse, elle se prend pour qui? Peu importe ce qu'il pense, vous savez où vous allez. Vous savez en qui vous avez cru et vous savez que ce que vous allez demander va se réaliser. Alors vous ne pleurez pas. Mais ce qui fait que nous pleurons et que nous disons toujours, oh le diable, nous n'avons rien compris. Ou encore, nous refusons ce que Dieu a fait pour nous sur la croix. Gédéon a dit à l'ange de l'Éternel, bon d'accord, si je suis vaillant héros aussi, c'est moi qui suis appelé à délivrer Israël et tout. Bon, fais en sorte que lorsque je vais déposer le tissu, hein, il pleut sur le tissu et autour ce soit sec. L'ange de l'Éternel a agi. Après, il a fait l'inverse. Et l'ange de l'Éternel a continué à agir. Pourquoi il a fait? Parce que son amour pour nous est très grand. Il a voulu montrer à Gédéon que peu importe ce que tu penses, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que tu réalises ce que moi je pense de toi. Notre échec, notre adversité vient de ce que nous ne savons pas pourquoi nous existons. Vous savez, c'est difficile. Qui êtes-vous? Beaucoup me diront, je suis mademoiselle telle, ou je suis X, je suis Y. Non. Qui êtes-vous? Oh, je suis chrétienne. C'est pas ça le problème. Qui êtes-vous? Parce que tout est déterminé par là. Chrétien, ça veut rien dire. Parce qu'on est des gens chrétiens de 30 ans, mais qui ne bénéficient pas de la grâce et de la bonté de Dieu. Si vous voulez réussir, si vous voulez être capable d'être au-dessus de l'adversité, qui êtes-vous? Pour réussir à se mettre face à l'adversité concernant nos problèmes intérieurs, vous avez besoin de définir qui vous êtes. Qui êtes-vous? Une religieuse? Un sympathisant en Christ? Parce qu'il y en a aussi, hein? Sympathisant en Christ. Ils aiment les églises de réveil, ils aiment la louange, ils aiment venir, mais leur cœur n'est pas tout entier. J'appelle cela les sympathisants en Christ. Bon, ils aiment quoi? Ils aiment bien notre sympathie, c'est tout. Vous êtes religieux? C'est-à-dire vous venez à l'église? Simplement sans être pratiquant, comme disent si bien nos frères catholiques. Vous êtes catholique pratiquant ou non pratiquant? Et vous les entendez dire, moi je suis pratiquant, et les autres vous diront, je ne suis pas pratiquant, mais je suis catholique. Mais vous êtes quoi? Chrétien pratiquant ou chrétien non pratiquant? Religieux ou sympathisant? Ça, ce n'est même pas encore un autre problème. Ce qui est important, c'est que vous déterminiez qui vous êtes. Qui êtes-vous? C'est là où tout commence. Le succès commence là. Qui êtes-vous? Je suis fille de Dieu. Héritière ou encore co-héritière avec Christ. Je suis à la ressemblance de Dieu. Je suis son image. Donc il m'importe de refléter Dieu et de pouvoir aussi faire ce pourquoi il m'a suscité, dominer. C'est ça ce que vous êtes. C'est ce qu'on appelle connaître son identité. Qui êtes-vous? Tant que vous allez refuser l'identité d'être enfant de Dieu, d'avoir pour origine Dieu, de savoir que le potentiel qu'il y a en Dieu se trouve en vous, vous ne réussirez jamais. Vous serez toujours face à de l'opposition. Vous serez toujours face aux épreuves, à ce que vous appelez être des épreuves, mais en fait, qui ne sont pas. Qui sont en fait les épreuves là? C'est notre, si je ne sais pas si ça se dit, mais c'est notre têtutesse, on refuse. On est tellement têtu face à la volonté de Dieu, on souffre. Je dis, il n'est pas bon que tu mentes. Toi, tu dis non. Seigneur, il faut que je sauve ma peau. Mais en disant, Seigneur, il faut que je sauve ma peau, vous n'avez pas confiance au fait que Dieu est capable de vous sortir de cette situation. Vous ne savez pas ce que Dieu veut développer en vous disant, ne mentez pas. Seigneur dit, attends un peu avant de te marier. Oh, Seigneur, tu ne vois pas l'âge. Dieu sait ce qu'il fait. Le jour où vous apprendrez à découvrir votre identité, le jour où vous saurez qu'aux yeux de Dieu, vous avez la même valeur que Jésus-Christ que vous adorez tous les jours. Le jour où vous allez réaliser que vous avez le même pouvoir que Jésus-Christ, alors vous allez vous rendre compte que Dieu ne peut pas vous faire de mal. Alors vous comprendrez que tout ce que vous vivez, tout ce par quoi vous passez, Dieu sait ce que vous ressentez, mais le plus important pour lui, c'est que vous atteigniez la stature qu'il veut que vous atteigniez pour être, pour profiter de sa grâce pleinement. Parce que trop de fois, on a été en contact avec notre grâce et nous l'avons perdue parce que nous n'étions pas matures face à cette grâce. Nous avons trop peur pour notre vie. Et c'est là, ça revient, et c'est le sentiment qu'il y avait quand on a péché. On a peur. Le premier sentiment, c'est la peur. On a peur de l'échec. On a peur que ça ne marche pas. Mais tant qu'on a peur, c'est qu'il y a un travail à faire dans notre vie. Nous ne sommes pas encore rassurés quant à la sécurité de Dieu pour nous. Nous n'avons pas encore accepté ça dans notre vie. Et tant que nous n'allons pas accepter, il y aura toujours de l'adversité qui nous amènera à accepter ça tôt ou tard. Nous nous inquiétons. C'est vrai, par moments, c'est normal, on est humain. Mais ne permettez pas à l'inquiétude de vous détruire. C'est vrai qu'on peut disjoncter, comme on dit, on peut taper sur la table, on peut crier, on peut dire, oh non, trop c'est trop, j'en ai marre. C'est normal, c'est humain. Même Dieu quelquefois dit, trop c'est trop. La preuve, c'est qu'il a envoyé le déluge au temps de Noé. Il a dit, là, trop c'est trop. Mais que trop c'est trop ne devienne pas pour vous l'adversité. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, je bénis Dieu pour ce message. Je ne dirais pas que je ne suis pas concernée, hein, ce serait mentir. Nous sommes tous concernés par ce message. Parce que quelquefois, il nous arrive de penser qu'on est meilleur et qu'on est parvenu. Et quand on écoute ce genre de paroles, on dit, Seigneur, vraiment, j'avoue que je ne sais pas trop si j'ai avancé d'un pouce, mais comme je ne veux pas m'alarmer, comme je ne veux pas m'arrêter là, je viens vers toi et te dire, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris d'où vient ce que j'appelle l'épreuve dans ma vie. J'ai compris d'où vient ce que j'appelle l'adversité, l'opposition, les tribulations. J'ai compris. Maintenant, Seigneur, ce soir, aide-moi. On n'est pas parfait, mais nous tendons vers la perfection. Et chaque parole que nous recevons est une étape dans notre développement. Et ce soir, j'aimerais vous inviter chacun pour votre part, selon ce qu'il a reçu, selon la réalité du message qu'il a reçu ou qu'elle a reçu. Levez vos mains vers Dieu en signe d'humilité et dites: Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que au-delà de ce que je vis, au-delà de ma prospérité chrétienne, je me rends compte que le sacrifice de Jésus que je prône chaque jour, je ne l'ai pas encore véritablement accepté. Aide-moi à l'accepter. Aide-moi à faire du sacrifice de Jésus sur la croix un bien propre. Aide-moi à réaliser, à rentrer dans cette vérité pour pouvoir jouir des bénédictions qui sont les miennes, mais pour pouvoir être au-dessus de l'adversité. Oh Dieu, aide-moi ce soir. Vous êtes dans la maison de Dieu et vous pouvez répandre votre cœur devant Dieu. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, vous ne venez pas à l'église pour les autres, vous venez à l'église pour vous-même. Vous êtes face à Dieu et donnez-vous la liberté de lui dire ce que vous ressentez. Donnez-lui la liberté de lui dire ce que vous pouvez ressentir. Si c'est de la déception, dites: Seigneur, je suis déçu d'avoir pas été à la hauteur de ce que tu as fait pour moi. Si c'est les larmes, dites: Seigneur, je pleure, mon cœur est brisé devant toi. Si c'est la tristesse, n'ayez pas honte, vous n'êtes pas devant les hommes, vous n'êtes même pas devant moi, vous êtes devant Dieu. Parlez au cœur de celui qui est pour vous un père et qui n'attend rien d'autre que vous lui donniez votre cœur tout entier. C'est le plus beau plaisir, c'est le désir, c'est son aspiration. Oh Dieu, aide-nous ce soir.
En espérant que ce message vous a été en bénédiction, nous vous encourageons à vous procurer le catalogue de nos productions audiovisuelles au numéro suivant: 00 241 07 29 68 47 et au 00 241 07 39 82 79 ou à l'adresse email suivante: missionjcr@yahoo.fr. Merci et que Dieu vous bénisse.